Ceci est, selon mon habitude, le réenregistrement d'une présentation que j'ai faite à Lyon le mercredi 27 novembre 2013 dans le cadre des entretiens entre la Fondation Trudeau et la Fondation Jacques Cartier. L'intitulé du colloque était « L'emprisonnement, enjeux systémiques, psychologiques et juridiques » et ma propre communication portait sur les aspects pratiques de la procédure disciplinaire en France et avec un retour sur expérience. Alors, la loi du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire, a apporté plusieurs séries de changements particulièrement importants en matière de discipline pénitentiaire, et notamment la réduction des sanctions de cellules disciplinaires encourues, qui sont passées grâce à cette loi de 45 jours maximum à 20 maximum pour les fautes de premier degré, avec juste une exception, 30 jours maximum en cas de fait de violence. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point apporté par cette réforme, c'est l'inclusion d'un assesseur issu de la société civile au sein des commissions de discipline. Alors, le dispositif législatif a par la suite été complété par des normes réglementaires, et notamment par un décret du 23 décembre 2010. L'organisation matérielle et le recrutement des assesseurs dans les commissions de discipline a été placée sous la responsabilité des présidents de tribunaux de grande instance. Pour ce que l'on peut en juger, mais vous verrez que je prends des précautions sur la portée de ce que je vais dire, en l'absence en tout cas donc de bilan national ou de recherche sérieuse qui soit globale sur le sujet, certains présidents de juridiction se sont acquittés de cette tâche de manière remarquable, d'autres n'ont pas du tout pris cette question au sérieux. La collaboration avec les établissements pénitentiaires cibles a en outre été variable d'ailleurs sur le terrain. Alors pour ma part, il se trouve que, outre mes 25 ans d'expérience de terrain, d'expérience en tant que chercheur aussi, les deux ont toujours été mêlés en ce qui me concerne depuis 25 ans dans les établissements pénitentiaires, ont été complétés depuis 2 ans et demi environ par le rôle d'assesseur, puisque dès que la loi était entrée en application en 2010 sur ce point, me suis présentée immédiatement en tant qu'assesseur dans un établissement pénitentiaire à proximité de chez moi. Il se trouve que dans cet établissement pénitentiaire, ça s'est fait dans des conditions, je pense, atypiques, mais en tout cas très très privilégiées, parce qu'il y a eu une excellente collaboration. Le président du TGI l'a pris très au sérieux, cette question du recrutement des assesseurs. Il y a eu une excellente collaboration avec l'établissement pénitentiaire, et un accueil, je dois dire, assez fantastique. Donc c'est au point d'ailleurs où nous avons énormément d'assesseurs, tellement que nous avons du mal à participer. Enfin, les choses fonctionnent très bien. Au contraire, ailleurs, il semble qu'il y ait des problèmes de recrutement. Hein. Bon. Donc ces 2 années et demie d'observation, et plus mon expérience évidemment passée, me permettent de faire un petit retour sur expérience que j'ai complété, mais d'une manière vraiment pas très très importante. Je ne prétends pas avoir fait une recherche véritable sur le sujet, mais j'ai distribué des questionnaires, j'en ai reçu en retour 10. Je n'ai pu véritablement en exploiter sérieusement que 8. Donc, bien que je n'aime pas beaucoup les plans de parties, je vais en faire un pour la présentation, un plan de parties, paragraphe 1, le fond, paragraphe 2, les questions de procédure. Alors, en ce qui concerne les questions de fond, l'observation sur le terrain et le questionnaire font apparaître diverses questions relatives aux qualifications disciplinaires, d'une part, ainsi qu'aux sanctions prononcées, d'autre part. Ils mettent aussi en lumière la question délicate du retard ou des troubles mentaux des personnes mises en cause. En ce qui concerne donc tout d'abord les fautes disciplinaires, la participation aux commissions en tant que spécialiste du droit pénitentiaire me place naturellement en première loge pour analyser la pertinence des qualifications disciplinaires retenues lors des poursuites. Et ce que j'observe, je n'ai pas été la seule, hein, les personnes que j'ai interrogées l'ont également soulevé, c'est que les qualifications retenues ne sont souvent pas pertinentes. Ainsi, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, hein, on va retenir que le détenu est l'auteur de faits de second degré consistant à refuser de se soumettre à une mesure de sécurité, alors qu'en réalité, ça consiste plutôt en un refus de respecter le règlement intérieur ou un refus d'obtempérer, qui en revanche sont des qualifications de troisième degré. Donc on pourrait penser que c'est avec un objectif à dessein d'avoir une sanction plus lourde. Honnêtement, ce n'est pas ce que je constate. Moi, je pense que c'est plus un réflexe culturel et institutionnel. Par exemple, pour une personne de l'extérieur, certains faits, comme le refus de rentrer en cellule, par exemple, ne vont pas être perçus comme étant une violation à une règle de sécurité, mais vont être perçus comme étant une violation du règlement intérieur ou plutôt d'ailleurs en espèce d'un refus d'obtempérer. Mais du point de vue des personnels pénitentiaires, c'est cohérent aussi avec le fonctionnement d'une prison, et bien ça va être au contraire perçu comme étant une violation, bien sûr, d'une mesure de sécurité. Alors, quand il y a des erreurs de qualification de ce type, la requalification à l'audience est possible. C'est ce que disait d'une part la circulaire du 9 juin 2011 sur le régime disciplinaire, enfin, circulaire de aucun avis, j'allais dire, ne valent que comme avis, hein, ce ne sont pas des normes juridiques. Bon, mais les juridictions, notamment par exemple une décision, un jugement du TA de Nantes du 5 octobre 2011, a posé que ça n'était possible que si la nouvelle qualification correspondait mieux aux faits que l'ancienne, que celle que la commission avait initialement retenue. Une autre décision, TA Grenoble, 24 mai 2000, plus ancienne celle-là, donc, a retenu que lorsque c'est la direction interrégionale qui requalifie à la baisse, elle doit obligatoirement réduire la sanction initiale, quelle qu'elle soit. Alors, les assesseurs interrogés et moi-même avons observé que les faits les plus courants étaient les suivants. Là, c'est vrai que ça concerne surtout les maisons d'arrêt. Des faits de violence entre détenus d'abord, des faits d'insultes ou de menaces entre surveillants ensuite. D'ailleurs, ça peut être plus volumineux. Troisièmement, des entrées, des détentions de drogue et de téléphones portables. Dans la maison d'arrêt où j'interviens, qui est en centre-ville, eh bien, c'est parfois projection depuis l'extérieur. Et puis, bien sûr, comme les détenus sont en cours de promenade quand ces projections arrivent, et bien souvent, ils vont prendre, si ça ne tombe pas exactement là où ils se trouvent, mais du côté, entre les grilles et le mur d'enceinte, ça va être un franchissement de ces grilles qui va, alors vous voyez, voilà typiquement un problème aussi de qualification. Du point de vue de l'établissement, ça peut être interprété comme une tentative d'évasion. Il va de soi qu'il n'y a pas, en l'espèce, véritablement de tentative d'évasion, mais plutôt bien le fait de participer à un trafic ou de faire entrer des objets interdits. Une autre chose qu'on retrouve assez souvent, c'est des refus de rentrer en cellule ou bien de demeurer dans un étage donné suite à des différends entre des détenus la plupart du temps. Donc si on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit que lié évidemment à ces difficultés, on a naturellement les trafics, les questions de trafic, les questions de dette entre détenus. Il est vrai renforcé par l'indigence carcérale, ça ce sont des questions classiques dans toutes les prisons du monde, hein, mais aussi les addictions bien sûr et les troubles du comportement, on va y revenir. Pour une maison d'arrêt, il faut aussi naturellement ajouter la surpopulation, qui est un facteur à la fois causal et aussi un facteur d'aggravation. Alors naturellement, les faits de violence entre détenus et l'agressivité envers les personnels sont également liés à l'ambiance dans l'établissement. Moins la prison est performante sur le plan moral et éthique, au sens des travaux d'Alison Liebling, notamment de son ouvrage de 2004, Prisons and Moral Performance, eh bien, ils ont évidemment des meilleurs résultats en la matière, ce qui est montré par d'ailleurs de nombreux travaux inspirés de Liebling, également avec d'autres méthodologies, ailleurs qu'en France, hein, sur le sujet. Dans l'un des établissements où une personne assesseur m'a répondu, ces tensions étaient d'ailleurs très importantes, et cet assesseur évoquait, je sentais qu'il y avait une énorme tension à l'égard du personnel. Alors, moi, c'est par contre pas quelque chose que j'ai ressenti dans l'établissement où j'officie. Dans l'établissement en question, d'ailleurs, même des faits très véniels, donc ça c'est la politique locale, tous les faits sont poursuivis, même des faits véniels. Ça peut d'ailleurs avoir un effet pervers, parce que souvent on prend du retard dans le traitement des faits, mais je reviendrai en conclusion, la commission de discipline est manifestement comprise, et pour moi c'est un exemple de bonne pratique, comme un lieu de d'amorçage des tensions, d'explication des règles, voire de médiation plutôt que de sanctions. Alors, une difficulté se rencontre également toujours sur ces questions de fond en pratique. Souvent, la violation du règlement intérieur est reprochée aux détenus, alors que ledit règlement n'a point été communiqué dans sa totalité aux détenus, au mieux exposé du livret d'accueil. D'ailleurs, pas forcément non plus distribué aux assesseurs. Bon, moi, j'ai réclamé, je l'ai tenu sans peine, mais moi, je pense qu'une bonne pratique serait quand même d'avoir sur la table de la commission en face de laquelle la commission est assise, comporte outre le code de procédure pénale, que personnellement j'apporte systématiquement, mais également le règlement intérieur, de manière à ce que l'on puisse vérifier un point, lorsque par exemple c'est la violation du règlement intérieur qui est invoquée, que l'on puisse immédiatement vérifier à quelle partie du règlement intérieur on fait référence. Il est vrai que jusqu'à ce qu'intervienne le décret du 30 avril 2013 porte-règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, bien des établissements n'avaient point de règlement intérieur à jour. Depuis ce décret, c'est de moins en moins le cas. Il existe d'ailleurs un certain nombre de lignes directrices dans la maison d'arrêt où je suis ici. Eh bien, le règlement intérieur a été refait en conséquence. Il est alors souvent le règlement intérieur, il est vrai, n'est pas observé par les établissements lui-même toujours. On sait que respecter un règlement à la lettre, c'est prendre le risque de faire exploser un établissement, c'est ce que les travaux de Chauvenet et Ali en 94 ont montré, ce que ma thèse avait montré cette fois avec une approche juridique en 94 également, et qu'en outre, c'est souvent donc matériellement impossible en raison du ratio détenu-surveillant. Les avantages qui sont ainsi consentis à la marge du règlement et du texte normatif par les surveillants afin d'acheter la paix sociale ont tendance à être perçus dans l'esprit des détenus comme constituant des normes coutumières. C'est également un sujet sur lequel j'ai travaillé d'ailleurs aussi pour ceux qui écoutent cet enregistrement. Vous avez mon PowerPoint avec les références à la fin. Donc en 1998, j'ai effectivement travaillé sur ces normes informelles, les usages et la coutume en détention. Lorsque les normes deviennent, enfin ces normes qui sont perçues comme des normes coutumières par les détenus, deviennent le centre d'un contentieux disciplinaire, ça va générer l'incompréhension. Par exemple, j'ai ainsi participé à une audience au cours de laquelle un détenu se voyait reprocher de voir refuser de réintégrer sa cellule parce qu'on lui refusait une douche à midi. Et il lui était objecté qu'il était trop tard, c'était l'heure du repas. Lui rétorquait qu'il l'attendait depuis 11h30, heure à laquelle il prenait habituellement sa douche, ce qui a été vérifié. Le chef d'établissement, cela dit, lui a expliqué, tout aussi légitimement que ce que le détenu évoquait de son côté, que les douches étaient en principe terminées à 10h30, que c'était en effet toujours, enfin, c'était la règle dans le règlement intérieur, et qu'il avait bénéficié jusque-là d'une largesse qui n'aurait pas dû être. Chacun était dans une légitimité, et si le détenu qui était persuadé que la norme était 11h30, et le directeur d'établissement qui rappelait la norme officielle du règlement intérieur. Le détenu, donc, pensait qu'il s'agissait d'une norme. L'intérêt ici d'une commission de discipline dont l'objet principal n'est pas la sanction, c'est effectivement de rappeler ici la norme, sans expliquer qu'en effet, c'était un usage, mais qui était une exception en réalité par rapport à un règlement, et en espèce, ça s'est très très bien terminé, et évidemment, le détenu a parfaitement compris. Alors certes, c'est très très difficile de parvenir à un bon équilibre entre la respectation du règlement et l'adaptation de celui-ci. Liebling, à nouveau, a publié là-dessus en 2011. Diverses recherches montrent toutefois que les détenus préfèrent les surveillances strictes mais prévisibles. Crew, qui a travaillé d'ailleurs avec Liebling sur ce sujet en 2011 également, a publié là-dessus. Et surtout, les détenus qui, par ailleurs, règlent effectivement les problèmes quotidien des détenus sont les plus appréciés à Havignal aussi en 2011. Alors, l'autre aspect que je voulais évoquer par rapport au fond, c'est la question des sanctions disciplinaires qui sont prononcées. Naguère, la peine de référence, à près de 66%, était la cellule disciplinaire, et ce, malgré la création en 1996 par un décret de la peine alternative de confinement, qui était peu praticable en maison d'arrêt en raison de la surpopulation et peu coercitive car il y avait peu d'activité de toute façon déjà en maison d'arrêt. La peine de cellule disciplinaire a-t-elle, c'est une question que je me pose, été moins prononcée depuis la loi pénitentiaire qui l'a rendue moins attractive en tant que sanction lourde en abaissant les quotas maximum? Eh bien, on n'en sait rien, malheureusement, parce que l'administration pénitentiaire ne communique plus comme elle le faisait naguère. Naguère, nous disposions d'un rapport annuel extrêmement bien fait, qui faisait environ 250 pages, qui était dans les dernières années publié à la documentation française, qui était une mine de renseignements pour les chercheurs, et le dernier rapport qui a été publié en 2002, et porté sur l'année 2000, mais depuis, il n'y a plus aucune statistique de cette ampleur. On a quelques très vagues statistiques dans un petit document qui s'appelle « Les chiffres clés de l'administration pénitentiaire », qui fait, je crois, maximum une dizaine de pages. On dit on est passé quand même de 250 à 10, ça donne une idée. En tout cas, on n'a plus du tout d'informations sur le pourcentage cellules disciplinaires. Donc, on n'a aucune idée de l'impact que la loi pénitentiaire a eu sur cette sanction. C'est quand même assez incroyable. Donc, c'est l'occasion pour moi de me plaindre à nouveau, comme je le fais presque à chaque fois que je fais une conférence, de me plaindre de l'absence de communication et de l'indigence des données en la matière. Les établissements sont contraints de collecter des données et de transmettre à l'administration centrale. On ne comprend pas pourquoi il n'y a plus du tout de restitution de ces données au public. Bon, en parallèle, on a du mal à faire des recherches en détention, donc c'est un ensemble de choses qui se produisent là, qui se produisent et qui sont, à mon sens, tout à fait regrettables. Sur le terrain, il n'est pas tant que le prononcé de la sanction de cellule disciplinaire dépend avant tout de facteurs classiques, la gravité des faits bien sûr, comme en matière pénale et avec souvent une autre interprétation, l'impact de la sanction sur les populations placées sous main de justice, donc les détenus, comme sur les personnels, donc ça c'est une particularité carcérale, contrairement au pénal, le président de la commission de discipline, il a égard principalement à ces deux populations dont il est en charge, et se demande à chaque fois quel impact aura la sanction sur ces deux groupes de personnes. Bon, ensuite, il y a des facteurs plus contingents. Par exemple, dans l'établissement où je suis, il y a peu de place, il y a deux cellules seulement disciplinaires, dont une maison d'arrêt quand même est surpeuplée de surcroît. Et en fait, ça, c'est probablement le facteur le plus puissant de réduction du prononcé de la peine de tension disciplinaire en cellules. Je pense que c'est, si j'ai un conseil à donner d'ailleurs à des gens qui seraient réformés sur ce point, le droit, ça ne fonctionne pas beaucoup, en tout cas, pour qu'on puisse l'imaginer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, ça a une influence majeure, puisque en l'espèce, quand on voudrait éventuellement prononcer une sanction de cellule disciplinaire, on est obligé de se demander si les faits que l'on a à juger sont plus graves ou moins graves que ceux qui ont été jugés et pour lesquels une personne se trouve déjà dans une cellule disciplinaire. Si les faits que l'on juge ce jour-là sont vraiment graves, et on va faire sortir de manière anticipée la personne qui est déjà dans la cellule occupée. En revanche, si la personne qui est déjà dans la cellule en question et qui n'a pas terminé de purger évidemment sa rétention, et qui sont plus graves que ceux que l'on juge, et bien, on va prononcer plutôt un confinement. Et donc ce que j'observe moi, c'est que la cellule disciplinaire, de fait, pour cette raison, est très rarement prononcée. Et elle est réservée à des faits de violence ou à des faits très graves de ce fait. Donc, c'est une particularité, je répète, de cet établissement en raison de son faible nombre de cellules et ça peut exister dans d'autres structures. Les sanctions les plus prononcées sont donc en pratique l'avertissement, le sursis et le confinement, pour des durées d'ailleurs assez modestes de ce que j'observe, très très loin souvent des maxima. Et donc, de fait, le confinement est devenu presque la sanction la plus sévère là-dedans. On verra aussi que c'est souvent parce qu'on est obligé de relaxer en raison de problèmes de procédure, mais j'y reviens tout à l'heure. Troisième point que je voudrais évoquer dans cette partie relative au fond, c'est la question des troubles du comportement et des maladies mentales. Moi, j'ai très souvent observé que nombre de détenus présentaient manifestement des retards mentaux ou des troubles du comportement. En cas de maladie mentale franche, l'information est d'ailleurs en général disponible, mais même pas forcément pour des maladies, des troubles du comportement ou pour des gens qui ont des retards mentaux. Quand je m'en ouvre à la commission avec mon expérience, j'ai quand même pas mal l'habitude d'observer ce genre de fait. J'entends en général, ah oui, peut-être, donc ça c'est plutôt un étonnement, plutôt un déni assez souvent également, avec des choses du type, oh bah il fait semblant de pas comprendre, en fait il est nettement plus intelligent qu'il en donne l'impression, en gros il fait l'idiot. C'est dommage qu'on puisse d'ailleurs on ne peut pas accéder aux expertises psychiatriques qui ont été réalisées durant l'enquête pénale, ça pourrait parfois servir. Bon, ça renseignerait au moins sur les maladies mentales, pas toujours sur les troubles du comportement, parce que en parallèle, je sais qu'ils sont peu diagnostiqués par les psychiatres, pour des raisons complexes, que je n'ai pas le temps d'exposer ici. Et quant aux retards mentaux, à moins qu'ils soient très lourds, c'est pareil, ils n'auront pas été identifiés non plus par les psychiatres dans un grand nombre de cas. Bon, pourtant, on sait que les prisonniers qui ont des retards mentaux ou des troubles du comportement ou de la personnalité ont sous Brings the Now 2020. Alors, ne point prendre en compte leur pathologie revient le plus souvent à les percevoir précisément comme étant des gens difficiles, en fait, hein, et à braquer l'institution, le personnel à leur rencontre, sans pour autant disposer de bonnes armes en termes de communication et de positionnement. Former les personnels en la matière serait indispensable, à mon sens, pour réagir de manière appropriée et professionnelle, et même surtout en amont pour désamorcer bien des conflits. Là encore, je renvoie alors à l'initiative anglaise qui a touché la probation spécifiquement. Hein, le ministère de la Justice anglais a produit une sorte de guide de bonne pratique éclairée d'ailleurs par la science, hein, c'est une dimension qu'on n'a pas chez nous, pour justement rendre la communication avec ce type de personnes, notamment ceux qui ont des troubles du comportement, plus facile. Je renvoie aussi aux suggestions de ma FMV en 2010. Alors, à minima, il serait essentiel, avec les gens qui ont des retards mentaux en particulier, d'adapter le niveau de langage utilisé lors des commissions de discipline. Moi, ce que je constate aussi, c'est que lorsque l'on a on a des personnes souvent qui ne comprennent pas ou pas tout ce que l'on leur dit, qui ont pris d'ailleurs l'habitude au cours de leur existence de dissimuler cette forme de handicap justement en donnant l'impression de comprendre alors qu'en fait ils ne comprennent pas tout. Bien que le niveau de langage soit en général moyen, hein, dans cette position, celui qui a le niveau de langage le plus élevé, c'est souvent l'avocat, qui fait du coup un peu office de traducteur et de zoro pour son client. Mais je pense qu'on devrait encore faire un effort avec ce type de personnes. Et puis, bien sûr, sur le plan juridique, il est indispensable de réfléchir à la création d'une cause d'irresponsabilité ou au moins d'atténuation de la responsabilité en droit pénitentiaire disciplinaire, comme je l'ai suggéré à nombreuses reprises dans mes écrits, et comme ça existe en matière pénale. Bon, la question est toutefois complexe et en grande partie taboue. Ainsi, trois des assesseurs que j'ai questionnés ont-ils été très gênés par ma question qui portait sur ce sujet. L'un d'eux a même répondu en rouge qu'il trouvait la question déplacée. Toutefois, un autre assesseur a répondu, les seules fois où j'y suis sensibilisée, c'est par les moqueries des personnels durant la commission de discipline. Il est très difficile, humainement parlant, de faire face à certains de ces comportements moqueurs, d'autant plus que le retard mental, ajoute cet assesseur, et plus généralement les maladies mentales, touchent une proportion certaine des personnes visibles. Une autre personne a noté qu'elle observait aussi beaucoup de souffrances psychologiques, et encore une autre m'a dit, j'ai constaté très souvent des déficiences. Donc il y avait aussi une partie des assesseurs qui m'ont répondu, qui franchissaient ce tabou, et très honnêtement répondaient eux aussi avec des observations donc très similaires aux miennes. Alors toutefois, les questions processuelles, à mon sens, celles que je vais aborder maintenant en seconde partie, sont les plus complexes, les plus lourdes. Il n'est pas tant que les réformes successives qui ont été engagées depuis 1996 en matière disciplinaire n'ont pas permis de progresser sérieusement sur la question de l'établissement de la preuve. Le procès disciplinaire est toutefois devenu plus contradictoire et plus équitable, mais il y a d'importants progrès à faire encore. Alors d'abord, premièrement, sur les questions de preuve, une première chose saute aux yeux de tout assesseur et de tous ceux que j'ai interrogés, les rapports d'incidents sont souvent très très mal renseignés, reflétant d'ailleurs très souvent les lacunes des comptes rendus initiaux d'incidents. Plus encore, il est rare qu'ils soient renseignés suffisamment. Donc. Alors un florilège d'erreurs courantes, par exemple la date des faits postérieure à la date de la commission, une fois j'ai vu, on était en juin, la date des faits qui était indiquée, c'était celle du mois de décembre de la même année, donc 6 mois plus tard. Parfois j'ai vu l'année précédente, le mois suivant, ou alors c'est pas renseigné, ce qui est encore pire. Mention par exemple aussi de ce que le détenu a été trouvé en possession d'une substance illicite, sans que celle-ci soit précisée, et accessoirement sans aucune sécurisation des objets retenus et objets du litige. Il y a une question aussi de modernisation du droit et des pratiques autour d'un alignement au moins partiel sur les questions de scellés et de saisie en droit pénal, en matière de procédure pénale, puisque là on n'a quand même pas effectivement de sécurisation des objets en cause. Et puis ces objets ne sont jamais présentés à la commission, on en parle, mais on en parle, on les voit jamais. Donc ça c'est en termes de contradictoire extrêmement critiquable. La détention illicite, autre erreur, d'un objet interdit, alors sans aucune référence au règlement intérieur. Or, on ne peut considérer qu'un objet est interdit qu'en référence à un texte. Soit c'est un texte normatif, soit c'est, et on s'y réfère, mais soit si c'est par rapport au règlement intérieur, bien dans ce cas, il faudrait avoir visé dans la procédure quel est le texte du règlement intérieur qui prohibe l'objet. Et on aurait des surprises. Parfois, il faut qu'un texte qui prohibe l'objet en question, hein, ça arrive. Parfois, on mentionne aussi le fait que deux surveillants étaient présents, par exemple, ou un gradé était présent, sans indiquer leur nom et sans indiquer leur numéro de matricule. Alors, la loi du 12 avril 2000, celle qui a permis l'entrée des avocats en détention, prévoit également à l'article 4 que les auteurs du compte-rendu d'incident, le ou les auteurs, peuvent demander l'anonymat. Et pareil pour les témoins éventuellement, mais il faut au moins mentionner leur numéro de matricule. Quand même qu'ils aient une existence tout court, ces surveillants. Autre erreur, l'indication que le détenu affirme que l'objet trouvé dans sa cellule ne lui appartient pas, mais on ne mentionne pas le nom des co-détenus, on ne les a pas interrogés, on n'a absolument pas fait de vérification. Ou alors, une autre fois, j'ai vu un effet de violence grave vu par un surveillant qui est parti en vacances sans être entendu, etc., etc. Donc clairement, la formation des agents à l'écrit disciplinaire est une très grande faiblesse, mais ce n'est pas la seule explication au caractère lancinant de ces difficultés. Comme nous le verrons, les avocats soulèvent insuffisamment les nullités de procédure et les recours demeurent rares. Bien les surveillants attendent pourtant de la commission des réactions fortes et sévères, sans pour autant mesurer que leurs écrits sont déterminants. Du coup, comme leurs écrits sont insuffisants, eh bien on va avoir des relaxes, on va avoir des décisions qui sont alors prononcées sans que les faits soient actés, avec le risque bien sûr de contestation, sans d'ailleurs pas suffisamment fréquemment dans ces cas-là. Il y a des questions de gestion du personnel aussi, il n'y a pas qu'une question de formation, qui se dissimule également derrière cette faiblesse. La personne qui est en charge de l'enquête n'est pas reconnue institutionnellement en tant que telle et n'a parfois pas l'autorité ou les galons nécessaires pour contraindre les surveillants à répondre à ces questions ou à prendre plus de soin à la rédaction de leurs écrits. Trop souvent, c'est d'ailleurs, les surveillants vont pas prendre au sérieux la démarche de celui qui fait l'enquête, ne lui répondent pas, refusent de se rendre disponibles, disent qu'ils ont trop de tâches à accomplir, refusent de venir dans le bureau répondre aux questions, d'écrire le témoignage qu'il aurait demandé. L'agent ou le gradé en charge de l'enquête n'est pas en mesure, je dis l'agent gradé parce que ça devrait être un gradé, mais c'est pas toujours possible, n'est pas en mesure, soit par manque de professionnalisme, soit par manque d'intérêt, soit par manque d'écoute ou de reconnaissance, selon les lieux, hein, de mettre en œuvre les techniques efficaces de recherche de la vérité. Il manque une formation à des techniques d'enquête, là par exemple, et, y compris les moyens aussi de réaliser des enquêtes au vrai sens du terme. Et il est manifeste également que son rendait avant tout du coup à la commission de discipline pour interdire la preuve. Donc si l'enquête n'était pas importante, tout se passera au moment de l'audience. Si tant est, cela dit, que l'objet véritable de la commission soit d'établir la vérité, parce que c'est mon second point ici sur la preuve, c'est que l'audience est souvent décevante. Dans de très nombreux cas, on ne parvient pas à faire une idée claire des torts respectifs, du déroulement des faits, et encore moins où se situe la vérité. Les présidents de commission ne convoquent que rarement des témoins, ne pratiquent que très rarement la confrontation. D'ailleurs, tous les assesseurs que j'ai interrogés m'ont répondu n'en avoir pas vu, quasiment pas vu. Alors moi, par exception, j'en ai vu, mais je me demande toujours dans ces cas-là si c'est pas parce que je suis professeur de droit, parce que de la même manière quand je vais dans les commissions d'application des peines, je trouve de manière très atypique qu'on fait souvent venir des détenus pour vérifier tel ou tel point, alors que je sais pertinemment que ça n'est pas la pratique générale. Donc, en tout cas, c'est très bien parce que quand, en revanche, j'ai assisté à des confrontations, j'ai assisté avec les deux avocats, d'ailleurs, du coup, présents, on a pris la peine d'aller chercher le surveillant qui avait vu tel ou tel fait à un moment donné pour lui poser des questions complémentaires, ça fait avancer de manière extrêmement importante l'établissement de la vérité. C'est vraiment dommage de s'en passer. En tout cas, bon, ailleurs, c'est vrai que, comme le note cet assesseur, c'est très difficile d'établir la vérité à l'audience. Donc je le cite, dans la mesure où les sentiments de tous sont exacerbés, le personnel pénitentiaire semble constamment sur les nerfs et épuisé, de sorte que l'objectivité de leur fait manuage est parfois douteuse. Quant aux détenus, nombreux sont ceux d'entre eux qui ont un grand talent pour la comédie et les pleurs à la demande. Difficile donc de faire la part des choses. Donc ça, c'est le contexte évidemment carcéral. Cette personne ajoute, le plus difficile à accepter reste sans doute le fait que nombreux des détenus se dénoncent pour d'autres, craignant pour leur intégrité, alors même que l'ensemble de la commission est unanime sur le fait que la personne qui comparaît devant nous n'est pas l'auteur de l'infraction considérée. Dans bien des cas, la frustration est donc au rendez-vous, on dispose d'enregistrements vidéo, mais ceux-ci ne sont pas exploités, ni ne sont montrés à l'audience. Alors il est vrai, parfois pour des raisons pratiques, on n'a tout simplement pas le matériel nécessaire pour projeter la vidéo, mais aussi par atavisme, la commission semblant plus s'intéresser à l'expression de la parole de chacun qu'à la détermination précise des faits. Ce qui est parfois choquant, et là peu d'avocats le remarquent, est que lors du débat, l'enregistrement vidéo peut être mentionné par la commission, mais que pour autant, elle n'est pas diffusée. Et là, le juge administratif ne contribue guère au progrès de la preuve et du contradictoire en la matière, qui après avoir jugé en première instance qu'il était nul la sanction disciplinaire prise alors que le visionnage d'un enregistrement vidéo avait été refusé, ça c'était à Dijon 12 juin 2012, a en appel préféré retenir la solution inverse, cour administrative d'appel de Lyon 18 avril 2013. Cela est d'autant plus surprenant que dans la plupart des cas, ça permettra à l'administration d'établir la faute tout en respectant le principe contradictoire. Donc je ne comprends pas quelle est la cause de la résistance à cette avancée procédurale. Là, elle ne repose vraiment sur aucune raison valable. Alors justement, le contradictoire, second point dans cette partie relative à la procédure. Alors, il faut d'abord quand même le souligner, alors où le projet de loi Taubira s'apprête à faire quasiment disparaître le débat contradictoire en créant une mesure de libération sous contrainte prononcée hors tout débat en commission d'application des peines en cas comme au temps moyenâgeux ayant précédé la juridictionnalisation et dont, hélas, je faisais état dans ma thèse en 94, et bien au contraire, en matière disciplinaire, les progrès ont été continus, respect du principe de légalité en matière de faute et de sanctions grâce au décret du 2 avril 96, suite, il est vrai, à l'arrêt Marie de 95, réduction, je l'ai dit, des durées des sanctions et création de sanctions alternatives, introduction de l'avocat au prétoire, ça c'était en 2000, et enfin introduction de l'assesseur au sein des commissions de discipline, ça c'est en 2009. Sur le terrain, cependant, même si certaines procédures n'ont rien à envier à certaines audiences correctionnelles, il est vrai pour le moins perfectible, les violations du principe contradictoire sont encore nombreuses. C'est par exemple le président qui fait état d'un élément connu relatif au prévenu disciplinaire, d'un témoignage ou autre, une figure pourtant pas dans le dossier. C'est encore, par exemple, le fait pour la personne qui fait office de greffier, généralement un surveillant gradé, d'être présent lors des délibérations, et bien souvent d'y participer, ajoutant ainsi de facto une voie pénitentiaire de plus à la commission en violation des normes. Certes, cela s'explique par la nécessité d'aller plus vite et de prendre des notes d'audience en cours de commission. Je n'ai vu pourtant qu'une seule fois un avocat le faire observer et menacer d'un recours invoquant la nullité, qui aurait été probablement accordé en l'espèce d'ailleurs. Et en cette occasion, on a donc fait sortir le monsieur qui s'occupe habituellement et de l'enquête d'ailleurs et de prendre les notes sur l'ordinateur en direct pour pouvoir immédiatement imprimer la décision et la faire signer par tous. Et c'est moi qui ai dû faire l'occasion de greffier en l'espèce, qui n'était pas plus pertinent. Mais moi, j'étais légitime, évidemment, à participer à la discussion. On pointe ici du doigt, une fois de plus, la nécessité de créer des corps professionnels spécialisés au sein de l'administration pénitentiaire. Après tout, celle-ci a su créer un corps d'agents d'escorte. Il paraît au moins aussi important de créer un corps de greffiers dûment formés. Lesquels greffiers, d'ailleurs, sont essentiels au sein du service du greffe actuellement, mais nous n'avons pas de véritables greffiers au sein de ces greffes, même si certains ont acquis une compétence incontestable. Il sera souhaitable qu'il soit de véritables greffiers. Et nous avons vu aussi qu'il nous faut donc il faudrait un corps d'agents gradés d'enquête. Alors, mes collègues assesseurs et moi-même avons pu manquer de constater que la plupart des avocats, hélas, ne soulèvent pas ces causes de nullité nombreuses qui sautent aux yeux, qui se manifestent au cours des audiences, et du fait qu'ils ne les soulèvent pas, eh bien, ils y contribuent à leur persistance. Une partie des avocats est tout à fait compétente, voire excellente. Ils ont d'ailleurs, quand il y en a un qui arrive, un avocat qui est compétent, on voit tout à fait le positionnement et une forme de crainte un petit peu de l'administration qui vérifie tout de suite sa procédure. Bon, ils auront lu le dossier, ces avocats-là, ils auront pointé des imperfections, ils connaissent bien les logiques carcérales. Et ils portent d'ailleurs un éclairage tout à fait utile. Hein. Par exemple, ce conseil que j'ai vu, dont le client était manifestement l'auteur des violences infligées à un autre, mais comme souvent, puisqu'il n'y a pas de statut de la victime en procédure disciplinaire, eh bien, ils étaient poursuivis tous les deux en même temps. Et donc, l'avocat de celui qui était très manifestement l'agresseur devait rappeler à l'audience, mais nous savons bien que le but de la commission est d'apaiser les tensions. Il a bien compris comment ça fonctionnait localement. Et il a donc ajouté que son client était prêt à se réconcilier avec la victime. Enfin, il n'a pas appelé victime, évidemment, en l'espèce. Donc, ces avocats sont écoutés religieusement par tous, craints, admirés, mais admirés en même temps par les membres de la commission, qui d'ailleurs, souvent, au cours du débat, commentent sur les performances de ces avocats. Beaucoup d'avocats, en revanche, sont d'une compétence moyenne, voire faible. Ils ont à peine lu le dossier, ils parlent d'une voix, d'ailleurs on s'en rend compte, hein, ils parlent d'une voix monocorde et faible, au début du niveau sonore de l'établissement, ils sont manifestement peu concernés, ils ne font pas avancer la compréhension du dossier ou de leurs clients, ne voient pas les erreurs juridiques criantes ou les vices de procédure tout aussi manifestes, ni ne demandent à voir quelles sont les normes internes précisément violées, j'en ai parlé. Comme le note cet assesseur interrogé, un plus grand intérêt des avocats pour la matière pénitentiaire ne ferait pas non plus de mal. Combien de vices de fond et de forme passent sous les yeux de simples étudiantes, alors même qu'ils glissent sous ceux des avocats professionnels. Une forte envie, ajoute cette personne, à cet instant, de leur chuchoter, relisez juste le rapport, 2 minutes, et relisez, vous verrez. Je ferme les guillemets. Alors, par contre, moi j'ai vu récemment une avocate assez atypique, qui était ni bonne ni mauvaise, qui était différente, parce qu'elle mettait donc elle était très utile, elle mettait chaque fois les faits disciplinaires dans le contexte psychologique, contextuel de la personne, où la personne en était de sa peine, où elle en était, bah, par exemple, on a eu un détenu qui était très agité parce qu'il n'arrivait pas à obtenir pour sa conjointe un permis de visite, un autre qui était très loin de sa région, qui avait donc pas de visite du tout, sa famille n'avait pas les moyens de venir, et qui à chaque fois remettait ça en contexte, sans justifier toujours les faits par cela, mais en les mettant en contexte, et surtout en essayant, alors c'était là où elle était quand même intéressante, c'est qu'à chaque fois elle proposait des solutions parfaitement compatibles d'ailleurs avec le fonctionnement de la prison qu'elle connaissait assez bien, et un véritable dialogue s'engageait entre elle, le détenu, le président de la commission, autour des solutions qu'elle proposait pour savoir si elles étaient faisables, et elle cherchait véritablement à obtenir une réponse sur place du problème de son client, son problème plus large qui avait causé la tension, l'agitation dans laquelle il se trouvait. Donc c'était particulièrement intéressant. Bon, alors la commission, justement, depuis 2010, les commissions de discipline doivent donc comporter un membre extérieur, ici de la société civile, mais en même temps, c'était le décret qui l'imposait, qui en même temps a des compétences en matière pénitentiaire. Sur ce terrain, la loi a été très très inégalement respectée. Là où j'exerce, on est par exception en surnombre, car le président du DG et directeur, je l'ai dit, ont su collaborer dès son entrée en vigueur. Cette réussite s'est toutefois faite au détriment de la participation d'étudiants en droit, je le regrette. La plupart des membres de la commission sont issus des conseils généraux ou des conseils de prud'homme, ce qui ne correspond pas strictement aux exigences textuelles. Au contraire, dans d'autres sortes, une interprétation bien trop étroite a prévalu, et le manque d'intérêt du côté du TGI, comme le manque d'empressement, c'est parfois un euphémisme du côté de l'administration, conduit à une insuffisante chronique du nombre des assesseurs. Il faut savoir qu'il y a quand même un syndicat directeur qui est très opposé à cette réforme, hein, donc la faire échouer, de fait, c'est aussi un moyen de dire, bah, regardez, personne n'a envie d'être assesseur, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. En réalité, c'est que les candidats sont rejetés ou on ignore totalement leur candidature, on ne leur répond pas. Donc dès lors, immanquablement, il y a des commissions qui se tiennent en l'absence d'assesseurs, leurs audiences sont-elles frappées de nullité? Alors dans ce cas-là, la circulaire du 9 juin 2011 dont j'ai parlé le conteste, qui affirme que dans ce cas, il convient de reporter l'audience et en cas d'urgence de la faire tenir tout de même, mais avec un seul assesseur, personnel pénitentiaire bien sûr. Le juge administratif n'a pas repris complètement cette règle. Un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 a ainsi retenu qu'était nulle la décision prise en l'absence d'assesseur, l'administration en l'espèce n'ayant commencé à tenter de mettre en œuvre la réforme que très peu de temps avant son entrée en vigueur. Et ça, c'est une situation qu'on va trouver fréquemment, donc c'est une décision intéressante. De même, une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes, dans une autre affaire d'ailleurs, hein, a-t-elle décidé que, je cite, cette irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui a privé l'intéressé d'une garantie de procédure, est de nature à entacher l'illégalité de la décision du directeur. Et là, il est ajouté, sans que puisse y faire obstacle la circonstance invoquée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que l'administration pénitentiaire n'aurait été informée que tardivement de la désignation des assesseurs par le tribunal de grande instance d'Orléans. Donc ce que la jurisprudence exige, c'est que l'on ait fait le nécessaire pour disposer d'assesseurs. Une seconde situation peut se présenter, le nombre d'assesseurs est satisfaisant, mais le jour de l'audience, l'intéressé est indisponible ou absent. En pareil cas, la jurisprudence actuelle ne semble pas pouvoir suggérer que la nullité sera encourue, dès lors qu'elle se focalise justement sur l'absence de diligence de l'administration. D'ailleurs, je précise que localement, la personne en charge de l'audience prend la peine de téléphoner à chaque assesseur, la veille ou l'avant-veille de l'audience, afin de s'assurer qu'il ou elle n'a pas oublié pour trouver un remplaçant en cas d'indisponibilité. Je pense que c'est un exemple de bonne pratique à répliquer. Alors, mais quel est le positionnement de l'assesseur durant les audiences? C'est une question qui peut être délicate, en tout cas elle l'était pour une bonne partie des personnes que j'ai interrogées. Dans certains ressorts, donc, par exemple, on ne permet pas à l'intéressé de lire le dossier. On ne l'autorise qu'à peine à poser des questions et encore moins de peser dans le délibéré. L'une des assesseurs interrogées a ainsi répondu qu'elle n'était que spectatrice et que lorsqu'elle voulait lire le dossier, on lui répondait que cela n'avait aucun intérêt. Tous les assesseurs ont confirmé qu'il était soit impossible de lire le dossier, soit plus souvent qu'il fallait le réclamer et que le temps de consultation était réduit à sa plus simple expression, ne permettant pas d'en prendre vraiment connaissance. Il en découlait, selon l'un d'eux, ce qu'il dit, me demander de prononcer sans me donner toutes les infos, c'est neutraliser l'intérêt de ma parole au délibéré, je ne sers à rien. Alors en ce qui me concerne, moi j'arrive toujours une demi-heure en avance, ce qui me permet d'abord de discuter de manière informelle avec le personnel, ce qui est toujours fort sympathique, et puis d'ailleurs je suis gentiment accueillie, on m'offre toujours un café, je veux dire que c'est très agréable, et ça me permet aussi de demander de consulter les procédures, ce que je peux faire à cette occasion. Si j'arrive un peu plus tard, eh bien je les consulte sur place, en général on me laisse le temps de les lire, sans problème, soit avant la procédure, soit entre deux dossiers. Le positionnement des assesseurs donc dans cet établissement est beaucoup plus facile. C'est vrai, bon, il faut effectivement demander les choses, on ne va pas spontanément présenter le dossier par contre, hein, mais c'est vrai que quand je demande, je l'ai sans aucune difficulté. Dans cet établissement, l'expérience législative a été parfaitement acceptée et l'accueil a même été chaleureux et dès le début, je dois dire, allant jusqu'à l'organisation de repas annuels, on réunit tous à la gendarmerie, c'est extrêmement sympa, où donc, quand je dis nous, c'est-à-dire les assesseurs, les personnes du tribunal qui ont orchestré tout ça, les personnels pénitentiaires qui sont impliquées dans le fonctionnement de la commission. Donc ça n'a rien à voir, là où je suis, avec cette formule qu'un autre assesseur d'un autre ressort m'a écrite, c'est l'ambiance secret défense, écrivait cette personne. Donc, et d'ailleurs en plus, moi je dois dire que outre le respect mutuel et la collaboration, donc l'acceptation des assesseurs localement, on sent aussi que les personnels de surveillance, du coup, sont assez heureux de donner à voir leurs difficultés et la complexité de leur métier. Donc en conclusion, j'ai envie d'amener sur une note positive, une bonne utilisation de la commission de discipline se donne à voir dans les établissements où j'exerce. C'est avant tout l'occasion ritualisée d'un apaisement des tensions entre détenus et entre détenus personnels. C'est le moment d'expliquer le sens des règles et d'en faire le rappel, d'écouter le point de vue de chacun. Je dois dire qu'on laisse parler les détenus aussi, hein, vraiment. Hein. Les établissements pénitentiaires sont fréquemment confrontés à des conflits entre personnes détenues, par exemple, que les procédures disciplinaires peuvent certes contribuer à des avancées par le dialogue et l'écoute, lorsque cela existe, que la commission est susceptible de mettre en scène. Et d'ailleurs, à cet égard, l'assesseur est aussi le témoin de ça. On est vraiment, on sent qu'on est la personne extérieure qui est témoin de ce qui se joue dans les prisons. Ainsi, on voit là effectivement cette commission qui se tient pour des broutilles, même parfois, qui a l'air chronophage, certes, mais ça contribue à désamorcer des conflits, des incompréhensions. Donc la commission, prise dans ce sens-là, est l'occasion d'un rituel qui montre aux détenus comme aux surveillants que leur problème est pris au sérieux. Ce qui ne serait pas le cas si ça se résolvait dans un bureau, sans témoin, sans avocat, etc. Bien utilisé donc, c'est un outil très performant sur ce plan. Plus d'une fois, j'ai entendu des détenus dire que la faute disciplinaire était pour eux le moyen de se faire entendre. Alors, ils n'ont pas forcément tous fait exprès, bien sûr, hein, mais ils sont satisfaits du fait que c'est l'occasion de se faire entendre. Et d'ailleurs, certains expliquent qu'ils ont, en cas de difficulté, exigé d'être transportés en cellule disciplinaire afin de provoquer une réunion de la commission. Donc, sans doute pourrait-on pousser plus loin encore la logique restaurative, et c'est pourquoi il faut se féliciter, à mon sens, que certains établissements pénitentiaires aient pu instituer des procédures de médiation, appelées médiation citoyenne, c'est le cas dans la maison d'arrêt où je vais, qui permettent, sous le couvert de l'intervention d'un psychologue, de rétablir le dialogue ou la paix entre les deux parties qui s'opposent. Mais moi, je pense que la commission, je répète, peut jouer ce rôle, et la présence de l'assesseur ici est utile, il y a un témoin. Et l'avocat aussi, d'une certaine manière, aussi la personne qui légitimise cette institution et qui ajoute au rituel. Donc c'est dommage d'ailleurs que l'institution pénitentiaire ne mette pas suffisamment en valeur ces réussites-là, notamment en n'ouvrant pas suffisamment ses portes aux chercheurs qui pourraient en dresser un bilan qui pour une fois serait positif. Donc merci aux personnes qui écoutent cet enregistrement. Je répète, vous avez toutes mes références sur le PowerPoint.